Bonsoir, nous sommes donc le dernier soir de cette année 2025 et nous sommes sur Radio Galère, toujours avec le fidèle technicien Sidi, mais bien sûr ce soir il est en vacances, alors en fait on enregistre cette émission aujourd'hui le 17 décembre. Et donc nous sommes mercredi, et mercredi c'est le jour d'une heure en Palestine, hein, qui est donc diffusé à 18h et qui est rediffusé le lundi à 11h et puis ajouté dans la liste des podcasts. Et donc bientôt, dans quelques jours, vous aurez le podcast de cette émission. Alors on souhaite à Sidi une très belle nouvelle année, ainsi qu'à toute l'équipe de Radio Galère. Il y a eu quelques renouvellements cette fin d'année. Et du coup, en ces temps de vœux, pour l'an qui vient, j'ai demandé à certaines animatrices de cette émission, qui est animée parfois par l'Union juive française pour la paix, parfois par les gens de boycott les investissements solidarité, parfois par Palestine 13, et donc je suis là, Philippe, parce que je fais partie de Palestine 13. Et donc certaines personnes nous ont envoyé leurs vœux. On entendra en particulier donc ceux de Juliette. Juliette, c'est la figure de proue de la campagne BDS Provence. Hein. Je vous rappelle que le boycott de produits distribués par des entreprises qui investissent dans les colonies illégales et meurtrières en Cisjordanie, c'est le moyen le plus simple qui est à disposition des citoyens, des consommateurs en l'occurrence, qui ne veulent pas être complices des méfaits de la colonisation. On entendra aussi les vœux de Claire Britain. Et puis on entendra encore d'autres vœux, et en particulier ceux de l'ami Émilien Urbach. Émilien Urbach qui, comme moi, est un marin, mais qui est surtout un journaliste, et qui, à ce titre, s'est engagé dans la Global Soumout Fotia. On avait entendu la première partie de son témoignage dans l'émission du 19 novembre. On entendra tout à l'heure le témoignage de son aventure terrestre et terrible en Israël, et on entendra donc ses vœux. Mais en cette fin d'année 2025, je voudrais rendre hommage à deux personnes. D'abord, bien sûr, rendre hommage aux dizaines de milliers de personnes qui sont mortes sous les bombardements à Gaza. Mais ici à Marseille, à la fin de l'année 2024, nous avons eu à déplorer le décès d'une femme qui était une extraordinaire journaliste. Et quand on prononce le mot journaliste concernant Gaza, ça fait partie, je dirais, des gens, des métiers qui sont le plus ciblés par les bombardements de l'armée d'occupation. Et donc en 2024, à Marseille, est décédée Marine Vlahovic. Marine Vlahovic donc était une journaliste extrêmement compétente, passionnée. Et lorsqu'elle est décédée, sa maman était venue amener sa bibliothèque dans la boutique Yabladi, hein, qui a fonctionné pendant 3 ans à la place Labadier. Malheureusement, cette boutique est fermée. Et donc les livres de Marine Vlahovic sont gérés maintenant par l'association Mille Babors de la rue Consulat. Donc n'hésitez pas à aller, ce sont des livres très précieux, très précieux. Et puis en cette année 2025, là au mois d'octobre, c'est une autre femme extraordinaire qui malheureusement nous a quittés, c'est Claudine Chaouia. Claudine Chaouia s'est battue, on va dire, pendant ces 5 dernières années contre un mauvais cancer qui lui rongeait le ventre. Mais pendant toute sa vie, Dean s'est battu pour la Palestine. Et avec son époux, avec lequel il constituait un couple fusionnel, ils étaient déjà en 2005 comme des figures de proue de la caravane pour Gaza. C'était une caravane terrestre qui était partie de Strasbourg avec un grand nombre de véhicules et traversait tout un tas de pays, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, la Turquie, l'Égypte, etc., pour apporter déjà à Gaza de quoi permettre aux gens attaqués de survivre. Mais déjà, à l'époque, la caravane avait été bloquée avant d'entrer à Gaza. Et donc, Dean avait réalisé des affiches à Troyes en récupérant des images de gens qui se battent pour la Palestine à peu près partout dans le monde, des images auxquelles elle avait rajouté des slogans. Et malgré sa maladie, presque chaque dimanche, Claudine a fait partie de celles et ceux qui manifestent au départ de la Porte d'Aix chaque dimanche depuis le 8 octobre 2024 en soutien à la Palestine. Donc peut-être certains d'entre vous ont récupéré ces affiches que Chris distribue encore. Et d'ailleurs, on va entendre Chris qui va nous lire un merveilleux poème donc en guise de vœux pour 2026.
Et Gaza restera, quels que soient les cycles de guerre, une ville qui crée sa propre lumière. Elle restera une mère reconstruisant sa maison à partir des cendres. Elle restera une enfant cherchant son jouet pour dire au monde « l'histoire n'est pas finie ». Elle restera un homme creusant dans les pierres pour trouver quelque chose qui prouve que la mémoire est plus forte que la mort. Elle restera un long poème que personne ne peut déchirer. Elle restera une mer dont les vagues ne peuvent être occupées. Et elle restera un nom s'élevant des gorges brisées comme une prière. Gaza, la ville qu'ils ont essayé de faire taire, mais dont la voix est restée plus forte que toutes les bombes.
Voilà, donc on entend des Chris, l'époux de Dean, Claudine Chaouia, qui nous a quittés cet automne, et pour laquelle on rend hommage. Et donc ce poème a été écrit par Abou Amir. C'est un Gazaoui qui fait partie de tous ces gens qui témoignent par la poésie sur ce qui se passe à Gaza, sur toutes les souffrances, mais aussi les espérances. Et on peut retrouver ce poème dans le site ismfrance.org. Et il y a tout un tas de témoignages de Gazaouis, la survie qui s'organise au jour le jour dans l'enfer de Gaza. Donc ce poète s'appelle Abou Amir. Et donc Chris et Dean faisaient partie en 2005 parmi tant d'autres de la caravane terrestre qui était partie de Strasbourg mais qui s'était faite bloquer avant même de rentrer en Israël. Et donc depuis des décennies, il y a des caravanes terrestres mais aussi des flottilles maritimes qui s'engagent pour aller vers Gaza ou parce que ce soit à Gaza ou ailleurs, à chaque fois qu'il y a une guerre qui touche des populations civiles, il y a des lois internationales qui obligent d'établir des corridors humanitaires pour amener ne serait-ce que des aliments, de l'eau, des médicaments, enfin bref, le minimum pour survivre. Et donc l'année dernière, on avait accueilli à Martigues, c'était un chalutier qui était parti tout seul de Norvège, le chalutier Andala, mais qui n'était pas du tout arrivé, même dans les eaux proches d'Israël. Mais cette année, en 2025, il y a eu une mobilisation sans précédent au niveau international, des dizaines et des dizaines de voiliers, à peu près 45 nationalités, qui ont embarqué donc sur des voiliers, mais aussi quelques bateaux plus gros, le minimum vital pour survivre, hein, c'est-à-dire du matériel de survie, des aliments et des médicaments. Et donc il y a eu deux flottilles. Il y en a une qui s'est appelée la Southern Madeleine to Gaza. Et à Marseille, ça a suscité vraiment une dynamique incroyable pour récolter des matériels à embarquer sur les bateaux. Donc bravo. Et c'était surtout des Marseillaises d'ailleurs qui se sont mobilisées pour la Southern Madeleine to Gaza. Et j'ai eu la chance à Ajaccio de passer une heure avec la doyenne des engagés, c'est Isaline Choury, 83 ans, qui était embarquée sur un gros bateau à moteur qui s'appelait Conscience. Malheureusement, ce bateau, comme tous les autres bateaux qui étaient engagés, a été attaqué de façon tout à fait illégale, en fait comme des terroristes, et finalement par l'armée d'Israël, qui s'est permis une nouvelle fois d'attaquer ces bateaux dans les eaux internationales, alors que bien évidemment, ils n'étaient pas du tout agressifs. Puis d'abord, ils étaient en eaux internationales, je répète, et Israël se permet tous les droits. Voilà, ils attaquent un bateau qui n'est pas dans leurs eaux, au prétexte, comme ils le disent, que tous les gens en fait qui critiquent leur façon de fonctionner sont traités de terroristes et d'antisémites, mais là c'est pas le cas, hein. Il n'y avait pas d'armes à bord de ces bateaux, bref. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir passer une heure avec Isaline Choury à Ajaccio à l'occasion d'un concert de la paix qui a été donné à Pigna et ensuite chez elle à Ajaccio. Et je vous invite à réécouter les émissions du 22 et du 29 octobre dans lesquelles avec Sidi on a pu vous faire partager son témoignage. Et puis il y a eu donc la Global Soumout Flotilla, une flotte plus nombreuse. Je rappelle que Soumout, c'est ce mot fondamental qui s'écrit S-U-M-U-D, qui concerne les Palestiniens et qui nécessite plusieurs verbes pour le traduire en français. Soumout, c'est résister, endurer, persévérer, espérer encore et toujours la victoire. Et donc parmi tous les gens engagés dans la Global Soumout Flotilla, il y avait l'ami et collègue Emilien Urbach, collègue parce que comme moi c'est un marin, mais contrairement à moi hein, qui ne suis qu'un simple animateur quand j'interviens sur l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère, Emilien Urbach lui est journaliste et c'est à ce titre qu'il a été envoyé spécial du seul quotidien de presse écrite qui a envoyé donc un journaliste sur la Global Soumout Flotilla, en l'occurrence, c'est le journal L'Humanité. On a pu entendre la première partie du témoignage d'Émilien, la partie maritime, dans l'émission du 19 novembre, que je vous invite à réécouter. Et on va entendre maintenant la partie terrestre et terrible de ce qu'il a vécu à terre de la part de l'armée d'occupation d'Israël. Donc on écoute Émilien Urbach.
Oui, bah écoute, il y a quand même, après cette période de bombardement, il y a quand même pas mal d'anxiété qui habite tous les participants à la flottille, tu vois. On se demande que ce qu'il faut qu'on fasse, est-ce qu'il faut qu'on rentre dans les eaux territoriales grecques pour qu'Israël ne nous attaque pas. Est-ce qu'on longe cette ligne pour être dans les eaux internationales et pas subir des contrôles administratifs de la douane grecque qui pourrait nous ralentir ou même nous empêcher de continuer comme c'est arrivé sur notre flottille, etc. Enfin, on est dans ces trucs-là. Et puis, en fait, la nuit qui suscite des bombardements, on se dit qu'on va suivre cette ligne en se disant, bon, on reste dans les eaux internationales, mais si vraiment on est attaqué, on rentre dans les eaux territoriales. Et en fait, au dernier moment, on a tous choisi d'aller dans les eaux territoriales pour se protéger, pour prendre du répit. On a passé 2-3 jours finalement à reprendre un peu nos esprits et puis à se demander est-ce qu'on continue, est-ce qu'Israël est prêt à aller plus loin. Et puis il y avait des pressions un peu de partout, il y avait tout ce qui se passait au niveau médiatique, etc. Et bon, on a bien sûr choisi de reprendre la mer et d'aller le plus loin possible. Mais c'est vrai, avec ce sentiment d'être en danger et en tant que Français de pas du tout être protégé.
Enfin,
tu vois, il y a eu vraiment des États et là tout a un peu bougé, hein. Je pense que c'est une des réussites quand même de cette flottille là, c'est qu'elle a obligé des États à se positionner, à tomber leur masque. Donc t'as l'Espagne qui envoie un bateau, t'as la Colombie qui dès que deux personnes, des militants colombiens qui étaient là se sont fait emprisonner, à renvoyer la diplomatie israélienne à Bogota, en Israël. Il y a eu des réactions différentes. Bon, la France, non, elle n'a pas eu ce type de réaction.
Oui.
Elle a condamné, mais nous, on s'est senti complètement lâchés, pour le coup. Hein. Complètement lâchés. Et on part un peu dans ce truc-là où on sait que la seule protection qui compte, c'est celle des gens qui se mobilisent à Paris, à Marseille, à Nice. Pour garder le focus sur nous, sur Gaza, et que c'est la seule protection dont on bénéficie, en fait.
Oui, c'était. Oui. Ok. Et bizarre.
Voilà, et donc ensuite, on avance vers Gaza, et à partir de là, on se dit n'importe quand on peut se faire intercepter ou arriver au bout, et puis on avance jour après jour comme ça. On subit une première nuit. Il y a notre bateau mère, à ce moment-là, qui est encerclé par une frégate qui disparaît très vite, qui apparaît, qui disparaît dans la nuit. Et le temps où elle apparaît, tous ces moyens de communication à notre bateau est brouillé. C'est la première alerte qu'on a. Et c'est le lendemain, vers 19h15, qu'on assiste, la nuit vient de tomber, à la première attaque sur le Sirius.
D'accord, le Sirius. Attends, et cette nuit-là, tu te souviens, c'était quel jour finalement?
Ah putain, tu sais quoi, j'ai perdu complètement les notions.
Et voilà, et non, mais Isaline a aussi témoigné qu'elle était désorientée.
Non mais oui, c'est tout, oui, alors ça au niveau timing, c'est la nuit du 1er, je sais plus si c'est la nuit du 1er au 2 ou la nuit du 2 au 3 octobre.
Octobre, voilà, c'est ça, hein. Donc tu étais parti déjà depuis plus d'un mois, deux mois.
Un mois et demi.
Voilà. Au bout d'un mois et demi, de tant d'angoisse, d'incertitude, etc., tu dis qu'à 19h, le bateau amiral, c'est ça qu'on dit, le bateau mère?
Non, c'est pas le bateau mère, c'est le plus gros voilier.
On a quand même
quelques bateaux moteurs qui sont parmi nous, qui assurent, tu vois, entre les bateaux, de l'avitaillement, et puis... Un plus gros qui est le bateau mère, où le comité de direction de la flottille est embarqué.
En fait, à 19h15, donc il ne fait pas encore tout à fait nuit, c'est le plus grand voilier qui est attaqué, ok?
Voilà.
Et après, tu m'as dit, là, quand on s'est eu récemment, que pendant toute la nuit, du coup, vous ne savez pas trop ce qui se passe pour lui, mais vous attendez, est-ce que ça vous tombe dessus?
À bord du Mia. Alors là, on avance dans la nuit, on voit un énorme bateau militaire qui est là et qui éclaire la zone, en fait, avec d'immenses projecteurs.
Ouais.
Deux autres frégates un peu plus petites, mais quand même colossales, qui, elles, vont à fond, tu vois, et traversent la flottille et tout ça, elles choisissent de s'en prendre un d'entre nous et puis elles braquent leur projet dessus, elles les aspergent au canon à eau, etc. Mmh. Et puis des bateaux pneumatiques qui dès qu'il y en a un qui est arrêté, un voilier arrêté, il y a un bateau pneumatique qui arrive dessus et qui fait monter des soldats à bord. Et nous, pendant toute la nuit, on zigzague à l'intérieur de cette scène de... Je ne sais pas comment la qualifier, parce que c'est toute la nuit.
C'est une scène...
Des bateaux qui passent, des vagues, des coups de projecteur, des coups de canon à eau, des machins, on circule à l'intérieur de ça. Et puis nous, on est intercepté 12 heures après, en fait, puisqu'on est intercepté vers 7 heures du matin. On est qu'à une trentaine de milles nautiques des côtes Gazelaouis. Et ça fait 12 heures, ouais, là, le jour vient à peine de se lever.
Si je peux me permettre, tu cherchais le mot tout à l'heure, il me semble que la scène à laquelle vous assistez, c'est une scène terrorisante, donc on peut qualifier ça d'une attaque terroriste en fait, puisqu'encore une fois, vous êtes dans des eaux internationales, vous naviguez à la voile, tout le monde est prévenu que vous amenez des médicaments, et la façon dont l'armée israélienne se comporte, c'est comme des terroristes, ils vous balancent des
lances... C'est des pirates en tout cas, ouais, clairement c'est de la piraterie.
Voilà.
C'est des scènes que, pour avoir vu des docus ou des trucs comme ça sur comment les pirates s'y prennent au large de l'Éthiopie, c'est exactement la même scène, sauf que là, c'est des mecs qui ont des uniformes, mais sinon, c'est exactement la même
scène. C'est ça le comble, cette espèce de retournement de la part de nos médias qui qualifie, par exemple en France, les gens qui manifestent, ils les qualifient de terroristes, etc. Alors que ce soit les gens qui manifestent tous les dimanches depuis des semaines et des mois avec des drapeaux, il n'y en a aucun de qui armé. Et vous partez en voilier, mais vous êtes littéralement attaqué par cet État qu'il faut bien qualifier de ce qu'il est, c'est-à-dire d'État terroriste, d'État pirate, d'État illégal, je parle de l'État d'Israël bien sûr, qui depuis des décennies ne respecte aucune des lois européennes, aucune des lois internationales, aucun règlement de droit humain, bref, parce qu'il se réclame d'espèces de droits suprémacistes, de droits divins, etc. Bon, et finalement... Vous faites toujours cap à l'est, vous êtes attaqué, il est 7h du matin. Bon, alors donc, je m'as dit, c'est des jeunes soldats qui montent à bord. Comment ça se passe finalement à l'attaque?
Ben là, ouais, on est. Donc, il y a une frégate qui nous barre la route, qui nous somme de couper nos moteurs. Une autre qui arrive sur l'autre bord du bateau, qui nous asperge avec un canon à eau. Et donc nous on coupe le moteur, on monte dans le cockpit, on met les gilets de sauvetage, on met les mains en l'air et un Zodiac avec six soldats qui arrivent sur nous, qui nous tiennent en joue, qui montent à bord du bateau, qui nous fouillent, qui nous font rentrer à l'intérieur du bateau et qui prennent les commandes du voilier et qui nous amènent jusqu'au port d'Ajdod.
Jusqu'au port de, pardon ?
D'Ajdod.
Ok. Rappelle-moi, il faisait combien de mètres, ton bateau ?
C'est un 42 pieds.
42 pieds, donc il faisait à peu près 14 mètres. Vous étiez combien d'équipes ? Combien l'équipage ? Combien de membres à bord ?
On était 10 à ce moment-là. On était 10 à bord.
10 plus les 6 soldats qui montent et qui, donc, quoi, ils vous enfermaient dans le coq, dans le carré.
Voilà, ils nous ont demandé de descendre. Okay. Et si tu veux, c'est quoi à dire ? Parce que je viens de te dire qu'ils nous tiennent en joue. Donc la relation... Elle est violente.
Oui.
Néanmoins, ils sont courtois, quoi. Ils nous disent, écoutez, nous, notre but, c'est de vous ramener sain et sauf à terre. Voilà, les choses vont bien se passer. Et les choses, en effet, se passent bien. Ils nous emmerdent pas quand on a envie de fumer une clope au hublot. Ils nous mettent pas un coup de crosse, quoi.
Écoute, attends.
Mais par contre, ouais.
Oui, c'est justement ce qu'a décrit Isaline. Elle, je répète, elle était sur un grand, grand bateau. Ils étaient 90 à bord. C'est eux, l'attaque qu'ils ont subie de la part d'hélicoptères, qui ont élitreillé dans des soldats qui sont arrivés sur le pont. Mais elle a dit que c'était des très jeunes soldats, en fait. Bon, elle a dit que ces très jeunes soldats avaient forcément tué à terre, des enfants, des femmes, etc. Mais que là, à bord, ils se sont retrouvés un peu, ne s'attendaient pas à voir des gens pacifiques. Et donc, tant que, l'attaque a été, je dirais, maîtrisée par eux, parce qu'encore une fois, aucun équipier n'a voulu faire la moindre violence. tant que vous étiez en mer, ça s'est relativement passé. En revanche, on entend maintenant ce que tu vas nous dire de ce qui vous est arrivé à terre, mais ce qu'a décrit Isaline de ce qu'elle a subi à terre, je rappelle qu'elle avait 83 ans, est absolument inouïe, incroyable. Donc voilà, vous arrivez à ce fameux port, redis-nous le nom du port, parce que j'avoue qu'on ne connaît pas bien les ports.
C'est Ashdod.
Ok.
Le port d'Ashdod.
D'accord.
Ouais.
Alors maintenant, vous êtes...
qui est au nord de Gaza.
Ashdod, au nord de Gaza. Ok. Donc on imagine, ça y est, vous êtes enfin à terre, j'allais dire. Bon, vous avez finalement...
Non, justement, on n'est pas enfin à terre. On arrive à Macoste, et là, on met un pied à terre, mais on n'a pas le temps de poser le deuxième, que tout de suite, c'est clé de bras, par des mecs habillés en noir, cagoulés, et qui nous traîne jusqu'à un endroit du port, tu vois, qui est clos par des barrières vauban bâchées, tu vois, voilà, et qui nous aligne à terre, tête au sol, qui dès qu'il y en a un qui lève la tête, ils nous mettent à genoux. Moi, je tends ma carte de presse, ils me la jettent plus loin, puis ils me traînent jusque dessus en me demandant d'être à genoux et en me posant la tête sur la carte de presse en disant on n'en a rien à faire. Et des scènes comme ça qui ça dure plusieurs heures, tu vois, de violence gratuite vers moins de personnes qui essaient de regarder ce qui se passe. T'as Greta Thunberg à ce moment-là qui a amené obligé de porter un drapeau israélien, puis pareil, mise à genoux face à un drapeau israélien tenu par les cheveux, enfin bon, un truc, des scènes complètement hallucinantes, par des gars, tu sais pas vraiment qui sont, parce qu'il y a même pas, ils ont même pas un écusson, quoi, c'est des mecs en noir, en cagoulé, ils font régner la terreur pendant des heures, après on nous déplace à un autre endroit du port pour nous mettre un peu dans la même situation, t'as le ministre de l'intérieur, enfin de la sécurité intérieure israélienne qui arrive pour nous provoquer, quoi, tu vois, enfin provoquer les militants qui sont là en traitant tout le monde de terroristes, de personnes qui ont envie de voir mourir les enfants juifs, etc. Et puis bon, à ce moment-là, t'as tout le monde qui essaie de couvrir un peu sa parole en criant des slogans pro-palestiniens, etc. Et puis on voit arriver 20 de ces sbires là qui nous attachent les mains dans le dos avec des cercables en plastique, là, tu vois. Et on se retrouve, bah voilà, comme des cochons de veillée, là, par terre, machin, pendant encore quelques heures, quoi. Et en effet, peu importe l'âge du participant, quoi. Hein, et tout le monde n'a pas 35 ans dans cette histoire, tu vois. Et puis ça fait plusieurs heures qu'on est déjà dans cette situation, et puis on vient de subir, voilà, le mois de navigation, etc. Donc, c'est des moments durs. Ils ont tellement tenu ce discours de... Si tu veux, sur les autres flottilles, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu toute cette scène filmée de... Vous avez vu, on n'est pas méchants, on a donné des sandwichs à ceux qu'on a arrêtés, etc. Là, la logique de communication, c'était c'est des terroristes, leur faire mal.
Exactement.
Et franchement, moi, à ce moment-là, j'ai flippé, je me suis dit, mais en fait, jusqu'où ils sont prêts? Est-ce qu'ils vont prendre des mètres de côté, les canarder en disant c'est les 10 qui ont été violents avec nous, enfin... Et puis c'était tellement caché, et puis c'était tellement humiliant ce qu'on disait. Et puis voilà, enfin, je te parle de ma carte de presse, mais tu avais des députés avec des écharpes qui se sont fait arracher les écharpes, jeter à la poubelle. Enfin voilà, il y avait une sorte d'absence totale de droit, de reconnaissance de qui on était. Et puis finalement, la nuit est tombée, donc finalement...
Oui, attends, mais c'est important, c'est important ce que tu dis, parce que vous arrivez avec des costumes de marins, certains avec des attributs d'hommes politiques élus démocratiquement, d'autres comme toi, des professionnels de la presse, mais en face de vous, vous avez des gens tout cagoulés en noir, qui à aucun moment ne tiennent compte du fait que vous êtes des êtres humains, tu l'as dit, qui vous traitent comme du bétail, qui vous humilient, qui vous déshumanisent, comme on dit, qui vous font souffrir, et ça durait des heures et des heures, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, et là, vous avez eu la capacité, donc voilà, de rester. Tu dis, bon, il y en a quelques-uns qui chantaient des slogans, mais j'imagine qu'ils devaient chanter un peu faux, et puis rire aux jeunes, enfin bref, vous êtes vraiment en situation d'être terrorisé, non pas par des soldats, non, mais par des terroristes, quoi, c'est eux les terroristes. Et ça dure des heures et des heures. Bon, et finalement, ça s'est dénoué comment? Parce que franchement.
Ben là, on est conduit un à un, on a chacun notre binôme en cagoulé, quoi, dans le grand hall des douanes du port d'Ashdod, où ils ont installé un parcours, tu vois, où, avec plusieurs stands, quoi. Donc au premier stand, on se fait dévaliser de toutes les affaires qu'on a. Au second, on a un simili interrogatoire sur pourquoi on est rentré en Israël, on a voulu rentrer en Israël illégalement, alors qu'on n'a jamais, on n'a jamais voulu faire ça, quoi, tu vois. Et puis ensuite, on comprend dans les stands qu'on va être emprisonné, parce que voilà, ils prennent nos dernières affaires et ils nous religotent les mains avec leurs fermes cercades et ils nous bandent les yeux et ils nous amènent dans un camion, un camion borgne, tu vois, un camion cellulaire, tout en métal. Et là, ils mettent la clim au plus froid.
Et oui, c'est ce que disait Israël.
Et là, et le bateau, le camion, il démarre pas. Toute la nuit, on reste à 15 dans cette truc. On meurt de froid. Il y en a certains, enfin, on flippe encore une fois. Certains qui appellent à l'aide et il n'y a rien qui se passe. On se retrouve à se recroqueviller les uns contre les autres, tu vois, pour pas mourir de froid. Hein. Parce que c'est vraiment ça que on a peur de ça, quoi, tu vois.
Okay.
Et au petit matin, le camion démarre en direction de la prison de Keziot dans le désert du Negev, quoi. Où là, on descend du camion. Alors, il y en a certains qui sont déjà arrivés la veille, d'autres qui vont continuer à arriver. On est enfermés à tour de rôle dans une sorte de grand poulailler, tu vois, où on attend qu'on vienne nous chercher et on nous amène dans un petit endroit où on nous déshabille, on nous fait enfiler un jogging gris, un t-shirt blanc, puis on passe par une sorte d'algéco où on nous fait une visite médicale de 3 minutes, quoi, grand max. Et après, on est conduit en cellule, dans des cellules où on est 15 par cellule, il y a 8 couchages. Et où on nous... voilà, moi, on y a passé 4 jours, on a fait 2 repas en tout et pour tout, une fois une douche, on n'est jamais sorti, mis à part pour aller voir la représentation consulaire 2 fois.
Ouais. Ce que tu décris,
on empêche de dormir.
Ce que tu décris, c'est pas une arrestation, c'est pas, voilà, ça ressemble presque à une arrivée à un camp de concentration, quoi, avec des tortures mentales et physiques dès l'arrivée sur le quai. Et puis surtout, vous n'avez aucune assistance, comme l'impose la loi, ni médicale, ni alimentaire, comme du bétail. Et donc, bon, ça fait déjà un moment qu'on parle, Emilien. Franchement, c'est un témoignage très, très fort, très émouvant. Et donc, là, mentalement, j'imagine que ça a été très dur. Mais toi, tu en as vu d'autres. Toi, tu es allé dans plein de pays en tant que journaliste. Comme on dit, je déteste cette expression, sur des théâtres de guerre. Donc, j'imagine même pas les autres. Alors, comment ça se dénoue, cet emprisonnement terrorisant, finalement?
Ben, écoute, enfin, si tu veux, il y a... Parce que ça reparle un peu de l'implication de la France dans cette histoire.
Oui.
On a à 2 reprises, on voit la représentation consulaire qui est le consul me prend à part, moi, en tant que journaliste de l'UMA, et puis un copain de la CGT de la Confédération qui est là, il nous prend à part en nous disant, en gros, vous allez avoir un traitement particulier vu qui vous êtes, en gros, tu vois, enfin, qui essaie de nous passer du savon, en nous disant, on va vous faire sortir demain par un avion qui part à Athènes, etc. Vous voulez une banane? C'est tout ce que j'ai pu vous amener. Enfin, un truc complètement hallucinant. Et puis, on retourne en cellule, on rencontre les copains slovaques, par exemple, qui ont eu aussi rendez-vous avec leur représentation consulaire, qui nous disent, bon, écoutez, en fait, nous, ce qu'on a comme info, c'est que demain, on part tous par un avion par Athènes, et c'est ce qui s'est passé en réalité.
Quoi,
le lendemain matin, on est parti, on a pris, on est retourné dans un de ces bus cellulaires, là, et puis on a été amené au port d'Eilat, tout au sud, pour prendre un avion pour Athènes. On arrive à Athènes, on est reçu par la représentation consulaire française qui nous dit, bon, ben, à partir de là, il va falloir que vous appeliez vos familles pour voir comment vous rentrez.
Pour vous débrouiller.
En France,
pour vous débrouiller.
Voilà.
Okay.
Un truc comme ça, de absolument aucune aide de l'État français, quoi.
Ouais.
Écoute... Moi, j'ai la chance d'être accompagné par la rédaction qui avait anticipé, qui avait pris le billet, etc. Mais il y avait pas mal de militants qui se retrouvaient comme ça.
Abandonné, c'est ça. Écoute, Emilien, franchement, on entend dans ton témoignage que tu es évidemment encore tout choqué. Ce qui est très, très choquant, évidemment, ce qui a été très terrorisant et inacceptable, c'est des attaques comme des pirates en eau internationale et extrêmement effrayantes de la marine d'Israël. Ensuite, le traitement complètement inhumain à terre, dans les prisons, etc. Mais ce qui te choque, ce qui nous choque, nous, en tant que Français, c'est non seulement aucune assistance pendant que vous étiez en mer, pendant que vous étiez à terre en Israël, mais lorsque tu reviens à Athènes, et c'est pareil pour Israël, débrouillez-vous. Franchement, Emilien, merci beaucoup pour ce témoignage. j'invite tous ceux qui souhaitent en savoir plus d'aller sur le site internet du journal L'Humanité, hein, où Émilien a écrit pendant cette aventure, mais bien avant, et il écrira après. Maintenant, l'important pour Isaline, qui a 83 ans, pour toi et pour tous les autres, c'est de vous remettre de tout ça, de vous réoccuper de vous, de vos familles, et bien sûr, au niveau international, plus que jamais, le soutien au peuple palestinien continue. Et en tant que marin, je comprends et nous comprenons, et nous l'avons bien vu là, que dès qu'on engage des actions en mer, même pour ceux qui n'ont jamais pris la mer est un symbole de liberté, et tout ce qui, la dynamique qui a été créée par ces flottilles a amené plein de gens nouveaux à s'impliquer dans ce que subit de façon illégale et inacceptable le peuple palestinien depuis 70 ans. Donc merci encore Emilien, remets-toi bien. À très bientôt à terre ou en mer sur ce fameux voilier l'hétérotope, hein, que vous faites naviguer là pour faire des spectacles en mer, les embarquer, etc. Donc voilà, Emilien Urbach, merci beaucoup. Bravo au journal L'Humanité, lui, d'avoir envoyé un envoyé spécial. Et les flottilles, il y en aura d'autres. Des soutiens, il y en aura d'autres. Il faut absolument soutenir la résistance palestinienne parce que c'est cette résistance qui nous fait comprendre le prix de la liberté. Ciao, Emilien. Encore merci.
Ciao, Philippe. Ciao, ciao. Bye.
Voilà, donc on souhaite une excellente nouvelle année à Emilien Urbach et puis à Amandine Guillaume Urbach, hein, qui ont donc beaucoup sacrifié de leur vie personnelle et de leur vie de famille, hein, pour cet engagement qui a duré plusieurs mois en préparation, en action et en récupération dans la globale Soumout Foutia. Ils habitent là-bas au-dessus de Nice, du côté de la vallée de la Roya, où beaucoup de gens se battent aussi pour les respects fondamentaux des droits humains, contre tous les colonialismes et puis contre tous les fascismes, et là en l'occurrence contre le sionisme. Alors on va écouter cette chanson que j'aime beaucoup, qui reprend le thème de Nos Passaran. Nos Passaran, on écoute Nos Passaran.
Camaradas, pueblos del mundo, en los días en que la tierra llora y los hijos son enterrados sin nombre, alzamos la voz como se alza la barricada, con rabia y con esperanza. Traigo en la boca el gusto acre de la pólvora y en el pecho la memoria de los que no volvieron, de las madres que miran el cielo buscándonos. No somos espectros, somos manos, somos panes, somos canciones. Los que siembran odio recogerán su cosecha de fracaso. No es venganza lo que pedimos, sino justicia. No es odio lo que blindará nuestras filas, sino humanidad. El sionismo no pasará. Alimenta de odio al fin, quedará sin fuerza. Desde las olas del Mediterráneo hasta las llanuras y las colinas, las voces que gritan por Palestina son la voz de la humanidad. No aceptamos la impunidad que compra silencio con poder. No aceptamos que se convierta el dolor en mercancía de unos pocos, capitales que se enriquecen con la guerra. Sus fortunas están hechas de lágrimas y las lágrimas también pesan. La historia juzgará a quienes empuñaron la codicia contra la vida. Los que aman la libertad marcharán con los desposeídos. El sionismo no. Corazones en alto, la dignidad florecerá. Oh.
On écoutait donc cette merveilleuse chanson « No Passaran », dédicacée à toutes celles et tous ceux qui se battent pour que ne passe pas le fascisme, pour que s'arrête les colonialismes, les terrorismes d'État, etc. Voilà, et donc on va maintenant écouter les vœux que Emilien Urbach formule donc pour cette nouvelle année 2026.
Pour 2026, je fais le vœu que tous les acteurs de la solidarité, tous ceux qui s'engagent pour un monde de paix où aucun peuple ne souffrira de la domination des autres, cessent d'être inquiétés par les puissants.
Les vœux pour la Palestine. Tout d'abord, mon premier vœu, c'est la libération des 10 000 otages, prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et surtout, et avant tout, la libération de Marwan Barghouti, le leader incontesté et incontestable de la résistance palestinienne. Mon second vœu, c'est l'amplification de la résistance internationale, si belle et si diverse, et surtout l'amplification de notre résistance, de notre solidarité. Car nous savons que nous n'avons rien à attendre de nos dirigeants, nous n'avons rien à attendre des marchands d'armes et encore moins des spéculateurs immobiliers. Et mon troisième vœu va aux enfants de Gaza, de Cisjordanie, de Jérusalem, du Liban, des camps de Syrie ou réfugiés en Égypte. Mon vœu, c'est qu'ils puissent avoir une vie normale, qu'ils puissent sortir de ce malheur qui les entoure depuis tant d'années, qu'ils puissent étudier, manger, se laver, avoir une vraie vie d'enfant. Tous mes vœux pour la Palestine, les Palestiniennes et les Palestiniens.
Bonsoir, merci beaucoup à Philippe de donner l'occasion d'exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien. Alors, je suis Juliette, je suis animatrice de la campagne BDS France et du comité local BDS Provence, qui se situe dans le sud de la France. Je voudrais juste dire que nous avons un outil à notre service. C'est un outil qui a été initié par la société civile palestinienne en 2005. Cet outil, c'est un outil non violent, antiraciste, anticolonial, éthique et citoyen. C'est le mouvement international BDS, boycott, désinvestissement, sanctions envers l'État d'Israël jusqu'à ce que celui-ci respecte le droit international et les droits humains universels. Alors je profite de ces quelques instants pour faire appel à tous les citoyens et toutes les citoyennes de notre région et de notre pays pour rentrer dans ce mouvement de solidarité envers le peuple palestinien, les soutenir dans leur demande d'appel au boycott, au désinvestissement et aux sanctions, avec comme objectif d'isoler Israël sur la scène internationale, d'empêcher son impunité, de réclamer des sanctions envers cet État génocidaire. J'appelle tout le monde à rejoindre la campagne BDS. C'est le meilleur outil actuellement pour marquer notre solidarité avec le peuple palestinien. Merci, bonsoir à tous.
Voilà, nous sommes donc sur Radio Galère 88.4, l'émission Une heure en Palestine, la dernière de l'année 2025. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entendu les vœux d'Emilien Urbach, le journaliste de l'Humanité qui a passé plusieurs semaines sur la Global Soumout Foutia, les vœux de Juliette qui depuis Aix-en-Provence coordonne toutes les actions de BDS, boycott, désinvestissement, solidarité, les vœux de Claire qu'on salue là et qui grâce à elle encore on a un beau planning d'émission Une heure en Palestine. Et pour ma part, je souhaiterais mettre deux vœux. D'une part, je souhaiterais qu'enfin, concernant les peuples colonisés en général et la Palestine en particulier, on écoute la parole de ces gens-là. Là, on entend parler de plusieurs semaines de cessez-le-feu, d'accord de paix, soi-disant, mais en tout cas, dans l'accord de paix actuel, on n'écoute pas, on ne prend pas en compte la parole des gens colonisés, la parole des Palestiniens. Et c'est ça qui est fondamental. Il faut comprendre que ce sont des gens parfaitement intelligents et il est fondamental de respecter ce qu'on appelle l'autodétermination. Et donc je vais lire un petit poème de Rana El-Khatib. Rana El-Khatib est une Palestinienne qui a vécu longtemps aux États-Unis et qui là-bas a publié un gros recueil de poèmes, dont certains d'entre eux, 18 en tout, ont fait lieu à une petite édition de notre fameuse librairie Transit, de notre librairie associative Transit, qui est Boulevard de la Libération, qui a subi des agressions. Là, sa vitrine a été dégradée en cette fin d'année 2025. Et on souhaite les meilleurs vœux à toutes les librairies qui diffusent des livres qui sont fondamentaux. Donc, autodétermination. Vous pouvez opprimer un peuple entier, le dépouiller de son histoire et lancer un nœud coulant autour de sa vie. Mais vous ne pouvez aspirer la volonté de boire à la source de l'autodétermination. C'est un puissant fond que chaque tentative pour ensevelir son existence rend plus profond. Donc je souhaite qu'on respecte l'autodétermination des Palestiniens en 2026. Et puis je souhaite, moi qui n'y suis encore jamais allé, moi qui connais ces gens-là grâce en particulier à la petite entreprise France Import Palestine, qui depuis Rodez en Aveyron, depuis plus de 20 ans, importe et distribue des produits palestiniens, que ce soit des produits alimentaires, le fameux za'atar, les dattes medjoul, la zourat. D'ailleurs, un soir de réveillon, je vous conseille vivement, que vous ayez fait des excès ou pas, de boire de la zourat. C'est une infusion qui contient 8 fleurs, anis, fenouil, camomille, fleur de rose, tout ça c'est très très bon pour la digestion, la circulation des reins, l'élimination des toxines. Mais la zourate contient également le thym et le romarin pour tout ce qui concerne la respiration et pour le bien-être, le clou de girofle et la fleur d'hibiscus. Voilà, donc les lendemains de fête, quels qu'ils soient, et même quand on ne fait pas la fête, c'est excellent de boire de la zourate. Et donc grâce à cette petite entreprise France Import Palestine, il y a aussi l'association Le Philistin, qui organise des festivals grâce auxquels, moi qui n'y suis jamais allé, j'ai pu rencontrer une année l'archevêque orthodoxe de Jérusalem, et puis les danseurs et les danseuses de Dabke, les poètes, ceux qui fabriquent ces fameuses céramiques à Hébron, tout ce qui se fait en bois d'olivier à Bethléem, que ce soit des ustensiles de cuisine, ou des statuettes, ou des crèches, etc. Et donc Jean-Marie Dansette, le créateur de France Import Palestine, qui était encore en Cisjordanie en novembre pour voir comment réussir de nouveau à importer des produits, me dit et nous dit à tous qu'il faut y aller. Il faut aller en Palestine, il y a là-bas des gens qui organisent des petits voyages très bien faits, en particulier Sabri Giroud, qui est un Palestinien, enfin un Français qui a pris la nationalité palestinienne, qui vit à Jérusalem-Est, et qui a un petit organisme de voyage, D1 Voyage. Donc moi je formule le vœu d'y aller probablement ce printemps, en Palestine. Et puis je voudrais aussi remercier toutes celles qui nous ont aidé à faire cette émission cette année, en particulier des jeunes femmes, Marie qui a beaucoup de travail en cette fin d'année, Marie qui est allée de nombreuses fois en Palestine, et qui est co-réalisatrice de l'excellent podcast « Yalla, je t'emmène en Palestine ». Donc écoutez Marie dans ce podcast. On a aussi Claire Bastier qui était avec nous en octobre pour aller sur Goélen au sein de Paris de la Mer, qui est tombée folle dingue de la ville de Jérusalem et qui crée un spectacle qui s'appelle « Jérusalem dans la peau ». D'ailleurs on enregistre là ce soir le 17 décembre, elle passe ce soir à Marseille, elle repassera « Jérusalem dans la peau ». Et puis il y a une jeune femme qui s'appelle Rislaine. Rislaine, elle était pendant une année entière la salariée de la fameuse boutique Yabladi, dans laquelle on pouvait acheter les produits palestiniens, Place Labadier. Et Rislaine nous a communiqué dans plusieurs émissions Une Heure en Palestine, sa chronique sur le boycott. Encore une fois, on peut se désespérer de se dire qu'à sa mesure, chaque citoyen, on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose pour que cette situation terrible soit au moins moins terrible. Mais oui, on peut, en tant que consommateur, ne pas consommer des produits ou des services distribués par des entreprises qui financent la colonisation illégale. Voilà, et Rizal nous a transmis beaucoup de musique aussi, et donc on va entendre une chanson d'une vraiment très belle chanteuse au nom prédestiné qui s'appelle Ghazal. Donc c'est presque comme Gaza, mais Ghazal, cette chanteuse, son nom s'écrit G-H-A-Z-A. À elle. Je vous dis ça parce qu'avec Sidi, les chansons qu'on vous diffuse sont souvent dans des clips de YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ces clips dans lesquels on voit souvent des choses très intéressantes, que ce soit des dessins, des vidéos, parfois terribles, mais là c'est un soir de fête et on voit donc cette jeune femme, Razal, très charmante, très prometteuse chanteuse. Voilà, donc on écoute Théon Grazal, une jeune chanteuse dont la chanson nous a été transmise par Rislaine et qu'on peut donc retrouver sur YouTube. Donc nous sommes sur Radio Galère 88.4. On est à la fin de cette année 2025 où depuis Marseille, on a beaucoup entendu le mot flotti hein, par rapport à ceux qui se sont engagés réellement. Et puis il y a quand même eu une journée à Marseille, quelques voiliers là, qui ont navigué devant le Vieux-Port avec le drapeau de Palestine. Ça serait sympa qu'ils refassent ça un petit peu plus souvent en 2026. Ça s'est passé aussi à La Ciotat, autour du week-end du 11 novembre, le collectif Palestine La Ciotat a réalisé une très très belle exposition en 30 panneaux qui retrace l'histoire de ce qui se passe en Palestine. Cette expo a été commencée en 2002 et chaque année, à chaque agression nouvelle, elle a été complétée. Et donc je formule le vœu qu'en 2026, une structure puisse accueillir cette expo. Ça sera peut-être là à l'occasion des vœux du mouvement de la paix le 12 janvier, ça sera peut-être à la CIMAD. Voilà, et lorsque j'ai participé à cette expo avec un petit stand route du Zaatar de produits de Palestine, Nicolas, l'un des organisateurs, m'a transmis un excellent rapport qu'a fait l'association juive Betselem. Voilà. Donc l'autre mot qu'on entend évidemment énormément, c'est le mot génocide. Beaucoup de gens nient le fait que ce qui se passe à Gaza est un génocide. Alors ceux qui n'ont pas envie de lire les rapports de l'ONU ou d'Amnesty International ou d'autres grandes structures, je vous invite à aller sur le site de la section locale de Rennes, de l'association France-Palestine Solidarité. Donc vous tapez tout simplement Asso Palestine Rennes et vous recherchez ce rapport qui a été traduit en français, donc de Betselem, association juive qui a écrit « Notre génocide », avec des chiffres, avec des faits incontestables malheureusement. Je vous invite aussi en 2026 à aller souvent sur notre site là, de Palestine 13, Asso Palestine 13, qui transmet des informations nationales et internationales, et surtout un agenda d'événements, tous ces fameux événements qu'on réalise tant que faire se peut pour soutenir la résistance des Palestiniens et des Gazaouis. Voilà, on vous souhaite tous et toutes la meilleure année possible en 2026, d'avoir autant d'énergie, autant de soumoute que ces fameux Palestiniens qui nous aident en fait hein, à résister nous-mêmes contre les emprises de plus en plus fascistes dans nos sociétés. Et puis merci encore à Sidi, là qui est en vacances, mais comme on est le 17 décembre, Sidi, on cite souvent ton nom, mais on aimerait bien entendre sa voix aussi. Voilà, donc si tu veux nous dire tes vœux pour 2026.
Eh bien, je souhaite mes voeux, j'espère qu'il n'y aura plus de guerre, comme on attend beaucoup, et que la paix soit dans le monde. C'est le plus important, voilà. La paix dans le monde, voilà. C'est tout ce que je souhaite.
Eh bien, écoute, on te souhaite à toi une très belle année, et à toute l'équipe de Radio Galère. Allons Kevin, comme on dit, pour des nouvelles émissions en Palestine. A ciao.
Show.